pour investir, la boîte à outils.
Grosse boîte à outils, on vous a même convoqué, non pas un, mais deux spécialistes hein, de ces problématiques régulatoires, bref. Fiche technique hein, de sujets qui vous intéressent, et notamment vous, entrepreneurs, qui avez la tête dans les papiers, qui souvent n'avaient pas trop le temps. On se le disait hors antenne. Arnaud Tourlet de KMH for Life.
Bonjour Antoine.
Un habitué hein, des plateaux de BFM Business. Et on vous retrouve avec votre collègue Guillaume Hublot. Bonjour. Merci Bonjour, d'être Antoine. Là. On va peut-être commencer par un peu de lecture justement pour nos chefs d'entreprise cet été. Alors c'est technique, mais attendez, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, alors vous avez écrit un livre blanc qui est bleu. En vrai,
un livre bleu, voilà.
Mais justement pour essayer de tout comprendre sur ce sujet qui porte un nom qui rappelle un petit peu un code Wi-Fi, qui est donc le 150-0B-TER. Et c'est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur. Arnaud Tourlet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu tous les enjeux techniquement de cette problématique?
Alors, je vais laisser Guillaume parler des enjeux techniques, mais déjà peut-être juste en guise d'introduction, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a sorti ce livre blanc-bleu? Tout simplement parce qu'il y a une grosse demande.
Je vous confirme, on a des tas de questions dessus et c'est...
On le sait, hein, dans les années à venir, il va y avoir énormément de cessions d'entreprises. La démographie, notamment, joue dans ce sens-là.
La grande transmission.
Exactement.
On y revient.
Et par rapport à cette demande, on a constaté que, en fait, les réponses étaient pas vraiment convaincantes, que ce soit de la part de l'ensemble de l'écosystème, hein, des banques, des assurances, des spécialistes, des avocats, des notaires. C'est compliqué d'avoir des réponses qui vraiment satisfassent les entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc, on s'est dit, il faut qu'on amène quelque chose, il faut qu'on c'est notre métier hein, de conseiller les gens sur la gestion de leur patrimoine de manière générale. Et sur ce sujet précis, on a vu qu'il y avait un manque. Donc on a sorti ce livre blanc. Et Guillaume, je te laisse dire un peu pourquoi et de quoi il s'agit plus précisément.
Oui, et ce besoin de précision, j'allais vous le dire avant de vous céder la parole. Ça a aussi été un enjeu de la dernière loi budgétaire. Il y a eu justement des modifications, donc c'était peut-être important de revenir sur l'ensemble de ces points-là. Donc concrètement, comment ça se présente? Quel est le dispositif?
Alors concrètement, lorsqu'un entrepreneur cède son entreprise, il va notamment payer beaucoup de plus-value. Et il y a un dispositif qui s'appelle l'apport-cession, qui est le fait pour un entrepreneur d'apporter ses titres à une société holding. Dans ce cas-là, l'imposition des plus-values est déclenchée, mais elle est mise en report d'imposition. Si la holding cède par la suite, dans les 3 ans, les titres, l'impôt est dû, sauf ce dispositif de 150-0B-TER qui lui permet de maintenir le report. Les conditions, en fait, c'est de faire du capital risque. Le système, il a été fait pour que on soutienne l'économie. C'est de l'injection de capitaux dans les entreprises. Et donc, c'est un enjeu en France, puisqu'on nous parle toujours du fait que les entreprises sont sous-capitalisées, qu'on manque d'investissement et qu'un certain nombre d'entreprises sont forcées de partir à l'étranger pour trouver ces financements.
Oui.
Donc là, c'est tout l'enjeu du mécanisme. Et ce que le législateur me semble avoir oublié, c'est qu'il s'agit de capital risque. C'est-à-dire que les gens qui apportent 1 million, par exemple, dans une société holding, aujourd'hui, ils vont devoir mettre 700 000 euros en capital risque. Okay. Et il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes.
Bah, c'est le principe du capital risque, j'allais vous dire. Effectivement.
Voilà.
Quels sont les points précis qui ont changé dans la dernière loi budgétaire?
Alors, le législateur est venu passer la quote-part. On ne doit pas tout réinvestir. Avant, c'était 60% de réinvestissement. Aujourd'hui, on est passé à 70%. 70%, donc, évidemment, on va augmenter le risque que prend l'entrepreneur au moment même où il prend sa retraite.
Tout à fait.
Le deuxième point, c'est qu'on avait 2 délais de détention des titres achetés. Un délai à 12 mois et un délai à 5 ans. 5 ans, c'était pour les fonds d'investissement. Et 12 mois, c'était pour les participations en direct, c'est-à-dire l'entrepreneur qui joue un rôle de business angel. Ça, c'est terminé. Le délai est désormais à 5 ans. Et ça modifie radicalement le paysage, Parce que quand vous investissez à titre individuel, directement dans une entreprise, ben, l'entreprise, elle peut faire faillite.
Oui, tout à fait.
Ou, en général, il y a des clauses qu'on appelle des drag-longs ou des tag-longs qui, si la société est vendue, ça force les minoritaires à vendre en même temps. Et dans des projets de start-up, ça peut arriver. Et donc, la condition, en cas de faillite ou en cas de drag-long, de détention des titres pendant 5 ans, ne pourra pas être maintenue. Ce qui fait que, désormais, les gens qui voudraient utiliser ce mécanisme-là doivent forcément se retourner vers des fonds d'investissement spécialisés.
Ben oui, j'allais vous dire, on passe de l'auto-private equity à la nécessité de se mettre sous la coupe d'un fonds d'investissement, tout bêtement.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais alors après, il n'y a pas que le private equity, il n'y a pas que les fonds de private equity classiques. Hein. Il y a d'autres choses qu'on peut faire dans ce dispositif-là. Hein. Et tout l'intérêt, d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que nous, on préconise, c'est d'avoir une diversification des investissements. Et à partir de là, d'ailleurs, juste pour donner 2-3 chiffres d'ordre de grandeur, si vous avez une nécessité de diversification, une volonté de diversification, ça veut dire qu'il faut au moins investir dans 5 ou 6 fonds différents, on va dire.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc,
sachant que les tickets d'entrée, c'est en général, c'est 100 000 euros. Donc, il faut avoir au moins 500, 600 000 euros à réinvestir. Donc, en gros...
C'est pas donné à tout le monde, j'allais vous dire.
Ouais, ça, c'est ce qu'on dit. Si vous êtes pas dans le cas où vous cédez une entreprise pour au moins 1 million d'euros, c'est compliqué de faire ça, le 150 OBTR, la port cession. À partir d'un million d'euros, c'est jouable. Parce que vous allez réinvestir 70% de ces 1 million, donc 700 000. Et avec 700 000 euros investis, vous pouvez diversifier sur 5, 6, 7 fonds. Ah. Et là, vous pouvez faire du private equity, vous pouvez faire des bois et forêts, vous pouvez faire de l'hôtellerie, vous pouvez faire plein de choses.
Ouais.
Vous pouvez faire... Par contre, il y a des trucs qu'on ne peut plus faire. Là aussi, la loi de finances a changé.
Ouais.
Par exemple, les activités de marchand de biens dans l'immobilier, terminé. On ne peut plus.
Ah oui, oui, d'accord. C'est toujours l'esprit de il faut que l'argent vive. Enfin, c'était l'esprit de la loi. Il y a peut-être autre chose que ces dernières modifications de la loi budgétaire ont adopté. C'est vrai qu'il y avait une sorte de grand Satan qui s'appelait la holding. Toutes ces modifications nous remettent à l'esprit que pour certains patrimoines et notamment celui des entrepreneurs, la holding, c'est pas le grand Satan, c'est même la boîte à outils. Hein, c'est le titre de la rubrique. Et est-ce que c'est ça que vous avez ressenti justement dans les modifications qui ont été faites sur la dernière loi budgétaire ?
Alors oui, effectivement, on ressent que la holding est considérée comme un grand Satan, alors qu'effectivement, c'est une boîte à outils. De temps en temps, elle est dévoyée. Et moi, je pense que l'administration fiscale avait déjà en fait tous les outils pour combattre ces dérives. On n'avait pas besoin de loi. Et de ce fait, on arrive à des lois très très dogmatiques qui s'éloignent de l'utilité pour la collectivité de ces outils. Parce qu'on a une utilité évidemment pour le dirigeant, mais on a une utilité pour la société tout entière.
Oui, tout à fait. Arnaud Tourlet, le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Les clés d'un apport-cession réussi, ce serait quoi selon vous ?
Alors déjà, c'est une étape cruciale dans la vie d'un entrepreneur de céder une entreprise, que ce soit pour partir à la retraite ou pour peut-être en racheter une autre.
Et la recommandation que donnent beaucoup de professionnels qui succèdent sur ce plateau, c'est de commencer à y plancher dès la création de l'entreprise.
Alors, on peut commencer à y penser dès la création, mais en tout cas, en effet, il faut y penser assez tôt. Il ne faut pas attendre le fait de dire « je vais vendre dans 3 mois ». Il faut y penser tôt, il faut créer sa holding assez tôt et il faut décider combien on met dans la holding et combien on met en dehors de la holding. Vous n'êtes pas obligé d'apporter 100% des actions de votre boîte dans la holding. Parce que c'est un vrai projet de vie. Il faut savoir quels seront vos besoins derrière, quels seront vos objectifs. Et donc, ça se prépare. Voilà, tout à fait.
Effectivement, ça se prépare très en amont. Arnaud Tourlet, associé gérant KMH for Life avec Guillaume Hublot qui était avec nous. Merci d'avoir vraiment refait cette fiche technique avant les vacances, toujours utile pour vous entrepreneurs qui nous écoutez sur l'apport-cession. Merci beaucoup, à une prochaine fois.